causé une certaine surprise en battant l'Italie hier en Coupe Davis. Le Canada est en train de causer une seconde surprise en deux jours en dominant les Américains. Plus de détails dans quelques minutes.
Chef voleur, dit chef voleur, dit chef voleur, dit chef voleur, dit...
Notre grand chef concocte une recette contre l'anxiété aujourd'hui.
Non.
Ah, c'est pas ça?
Aujourd'hui, je vais faire des accusations.
Oh, tu vas accuser le monde d'anxiété?
Mais là, nomme pas de personne, par exemple, sinon ça marche plus.
Je vais accuser des groupes.
Tu vas accuser des groupes?
Oui, et tout le monde va y passer. C'est-à-dire que je vous parle de ça très souvent parce que j'ai remarqué, avant je disais que c'était aux 6 mois, c'est rendu au mois. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire de la radio parler, je te dirais qu'à chaque 6 mois, il y avait la une d'un journal qui disait recrudescence de pilules, recrudescence de Ritalin, recrudescence, dernières études, anxiété, etc. Récemment, je continuais d'avoir ma ritournelle qu'aux 6 mois, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un problème qui de plus en plus se mesure.
TDAH, à tous les mois, tu as raison, ça revient, c'est récurrent.
Et le lendemain, il n'y a rien qui se fait.
Non, ça tombe à l'eau comme une roche dans le fond du lac.
Voilà, parce que c'est des problèmes, des fois, qui demandent à accuser des choses. Moi, aujourd'hui, je vais le faire sans gêne. Puis vous allez dire, je suis d'accord ou pas. Puis il y a des degrés dans ce que je vais vous donner, dans les groupes que je vais parler. Puis vous allez voir, c'est absolument tout le monde, je pense, moi inclus. Puis il y a des proportions que j'ignore moi-même. C'est pas parce que je vais vous en parler en premier que c'est plus de leur faute que les autres.
OK.
OK? Donc, je résume tout ça par une étude qui est sortie partout aujourd'hui. 58% des universitaires souffrent de détresse psychologique. Vous avez bien compris? J'ai pas dit 12 ou 22.
58%. Mais ça veut dire quoi de la détresse? Moi, je pense que c'est ça leur méthodologie, le détresse psychologique.
C'est peut-être exagéré.
Mais c'est peut-être pas la méthodologie comme la définition de détresse psychologique.
Êtes-vous stressé à la veille de vos examens? C'est, tous les étudiants répondent oui, je tombe-tu dans la catégorie, je suis à la détresse, moi, là? C'est quoi le...
OK.
En tout cas, je sais pas.
Non, j'achète
ça. Quand j'ai coulé mon cours d'anglais en secondaire 2, là, je me souviens d'avoir pleuré quand j'ai vu mon bulletin, mais je suis pas sûr que j'étais en détresse.
Je veux juste vous dire que selon l'étude en question, auprès de 24 000 étudiants, donc on parle, tu sais, c'est pas vraiment genre, on a appelé 4 personnes,
non,
voir
je comprends.
Mais t'as raison, les définitions là-dedans, après ça, c'est élastique.
C'est tout est là,
mais je continue. 58% des répondants présentent un niveau de détresse psychologique élevé. Alors, ça va sur qu'on verra. 19% des répondants présentent des symptômes dépressifs modérément sévères ou sévères. C'est quand même 20%. Et 9% des répondants ont eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois. On parle d'âge universitaire.
Mais puis en plus, à l'université, on se comprend, là, c'est le début de la vie, tout va bien. En tout cas, c'est loin d'être aussi compliqué qu'un couple qui travaille, puis tu as des comptes à payer, puis tu as une famille, puis tu as une job avec du stress du bureau. C'est un autre paire de manches. Étudiant, moi, si je regarde ma vie, c'est probablement les années où j'ai eu le moins de stress dans ma vie, puis j'ai eu le plus de party, puis le plus de fun. Puis ça, c'est le monde, c'est là qu'ils sont le plus déprimés, puis qu'ils sont le plus suicidaires. Ça va bien, la vie va être longue.
Tu fais des beaux parties.
Alors, voilà ma longue liste. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'ordre. Je commence avec le féminisme.
Oh boy, tu tombes dans mes tales.
Qui veut pas, pour émanciper les filles. Moi, je dis souvent, on dit souvent que tu fais pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, pour émanciper les filles, c'est-à-dire les sortir du rôle qui était prédéterminé à la naissance, c'est-à-dire tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Ce avec quoi je souscris, bien entendu. Il y a eu, bien entendu, des œufs cassés. C'est-à-dire que ça et la révolution sexuelle, ça fait en sorte que tout à coup, les familles qui tenaient ensemble, peut-être pas avec un couple heureux, mais qui tenaient ensemble, il y a eu vraiment des éclatements, etc. En un mot, c'est pas des gars qui sont sortis dans la rue avec des pancartes en disant on veut vouloir divorcer.
Ça cause l'anxiété, c'est ça ton.
Je pense qu'une famille qui est, tu sais, on parle des fois des familles reconstituées. Il faut aussi parler des familles qui sont démembrées avant d'être reconstituées.
Déconstituées.
Je crois que ça, c'est une partie qui fait que c'est plus difficile pour les enfants, puis on s'en rend compte avec le temps, parce que maintenant c'est rendu la norme plutôt que l'exception. Mais je crois pas. C'est pas parce que je vous en parle en premier que je pense que c'est plus responsable qu'autre chose. Les hommes eux-mêmes. Je crois qu'ils sont aussi responsables d'avoir de la misère à s'adapter à la réalité maintenant des filles. Des Julie Grenon qui travaillent, etc. Maintenant, c'est monnaie courante. Est-ce que tous les gars sont capables de faire l'adaptation que leurs pères ont peut-être eu un gros rush quand c'est arrivé les premières générations? Aujourd'hui, c'est un must. C'est de même. Ça reculera pas. Ça fait que je pense que les gars aussi ont des culottes à se mettre un peu plus solides en disant, c'est pas parce qu'une fille a des revendications qu'il faut que tout à coup la mode, c'est de dire oui à toutes. De savoir dire non comme gars, ça reste un truc qui est pas facile, mais je crois. Les enfants, bien entendu, je trouve que j'entends souvent des jeunes adultes ou des ados qui remettent la faute à tout le monde. Récemment, on me disait, dans la même semaine, à 3 reprises, des employeurs qui disaient, on se rend compte que les milléniaux, là, ceux qui sont en bas de 30 ans, On a pris, là je vous parle des témoignages qu'on m'a donnés, là, des employeurs, on a compris que quand on engage des jeunes de cet âge-là, ils seront jamais satisfaits. Faut qu'on arrête de vouloir les satisfaire, de mettre des pommes puis des jeux de billard dans la salle de réunion, c'est bien à la mode, là, sur LinkedIn, personne ne travaille. Ça, il va falloir que les jeunes comprennent que vous êtes responsable de ce qui se passe, puis que du stress, ça fait partie de la vie. Les femmes aussi, je crois qu'ils n'ont pas encore réglé un degré de culpabilité supplémentaire que les gars ont. Moi, j'avais un gag dans le temps qui disait « Les gars aussi, on a de la culpabilité, sauf que quand nous autres, on est coupables, c'est parce qu'on l'est vraiment. » Puis je trouve encore que les filles vont avoir tendance à se mettre une charge en se disant « Bon, ben si personne ne va le faire, ben moi le faire. » Ben c'est ça. Finalement, ils se ramassent encore torchés quand à quelque part, c'est peut-être pas obligatoire. Les médias, je pense qu'on est responsable de s'occuper de ce qui est uniquement sensationnel. Donc, tantôt, on en parlait, c'est-à-dire, c'est drôle de parler de quelqu'un qui est accusé, mais s'il est acquitté, personne ne va le savoir. Ça fait que ça rajoute aussi au signal que « check si ça va mal ». L'État et la gestion de la santé, qui pour moi s'occupent de tout quand c'est trop tard. On est très bon pour dire que ça prend la nouvelle machine. Exactement. Mais dans la vraie vie, un problème d'anxiété, là, c'est au départ. Ça part dans la tête, puis c'est la perception qu'on a où on n'est pas à bonne place. Donc, je pense que ça, le système de santé, il est bizarre. Les directions d'école, qui s'occupent uniquement du savoir et jamais du savoir-vivre. Il n'y a aucun cours de gestion de stress, à ma connaissance. Il n'y a aucun cours sur les mœurs et les relations. Les jeunes découvrent ça encore à brûle pour point.
Ou les parents.
Ben, OK, mais je veux dire, mais je viendrai.
Ben, il me semble que c'était mes parents, dans ce temps-là, qui étaient responsables de cette partie-là de mon éducation.
Mais je crois qu'à défaut que ce soit les parents, pourquoi ce ne serait pas complété d'une façon ou d'une autre par l'école qui pourrait toucher à des sujets plus sensibles?
Ouais,
je sais pourquoi.
Parce que là, il faudrait rester à l'école 13 mois par année. Là.
Non, peut-être pas. Moi, je trouve juste que entre un cours d'arithmétique soigneusement donné, puis un cours qui fait en sorte que dans ton quotidien, on t'a sensibilisé à c'est quoi les relations?
Ben, il y en a quand même des cours de civisme, là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, mais mon fils en suit des
Parfait,
cours comme
super.
Ça à l'école. Ouais.
Les parents aussi, tu parlais des parents, tout le monde est arrosé. Je pense que beaucoup de parents aujourd'hui, pour qui c'est très important d'être aimé de leurs enfants, plus que d'en faire des adultes responsables. Puis à ce moment-là, c'est que ton savoir dire non, il y a de la misère. Puis tes enfants deviennent ce qu'on appelle des enfants rois. Il y a une raison
pour
ça.
Le respect de l'autorité, comme ça.
Exact. Puis en dernier lieu, le capitalisme exagéré, c'est-à-dire le fait que tout à coup, des Uber de ce monde qui sont des avancées techniques puis qui ont amélioré l'expérience client, je suis tout au courant de ça, mais qui font en sorte que combien de business aujourd'hui, donc de salariés, donc de monsieur, madame, tout le monde, qui sont aux prises avec une espèce de mondialisation qui vient avec Internet, qui elle aussi est au banc des accusés, parce qu'Internet, ça a amené beaucoup de choses, mais ça a amené une énorme anxiété de comparaison, puis d'instantanéité. Les gens, maintenant, c'est ici, maintenant, tout de suite. C'est pas tout le monde qui est capable de dealer avec ça. Voilà mon catalogue, mes chers collègues, sur ce que je pense. Tout le monde est à quelque part responsable de cette époque que je résumerai comme ce qui suit. Avec tout mon résumé, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite que la capacité qu'on a de s'adapter dans tous les domaines.
Ça, t'as raison.
Et ça amène un rush personnel.
Je peux-tu soumettre une autre hypothèse? Parce que on peut pas les reprendre point par point parce que c'est un tableau assez global que tu as dressé, là. Mais ça se peut-tu aussi qu'il y ait trop d'étudiants à l'université qui ont pas d'affaires, là? Ça se peut-tu? Parce qu'il faut comprendre que ça a explosé, hein, le pourcentage de la population maintenant qui va ses bancs d'école à l'université, là. Est-ce que c'est possible qu'il y en a, mettons, la moitié qui ont pas d'affaires, là, puis que c'est pas fait pour tout le monde, puis qu'on a tellement dévalorisé les professions traditionnelles ou les métiers manuels ou les métiers qui requièrent moins de diplômes? Qu'on a poussé du monde à aller à l'université.
Puis
aujourd'hui, ils sont stressés parce qu'ils sont pas à leur place. Je sais pas. J'ai juste soulevé la question.
Non, c'est intéressant, vu que l'étude vient d'étudiants universitaires.
C'est ça. C'est tout ça qui cause une partie du stress.
Soit qu'ils sont pas à leur place ou ils ont de la difficulté avec la notion de persévérance. Quand c'est difficile, faut continuer. Ouais. En fait, c'est pas parce que ça fait mal que c'est pas correct. Des fois, c'est difficile, faut étudier. On se sent peut-être pas toujours sur notre X, mais des fois, ça vaut la peine de traverser le sentiment d'inconfort. Fait que je pense qu'il y a ça aussi beaucoup à l'université, dans les écoles. Tu sais, les gens qui abandonnent parce que c'est trop, là. Tu sais, fait que ça, c'est l'anxiété qui se manifeste. Mais c'est parce qu'ils sont pas habitués de gérer ça.
Ils sont pas habitués de faire des efforts.
Ouais,
parce que tout le monde les a faits pour eux autres, les efforts plus jeunes, souvent.
Mais moi, ça me parle, ce que tu dis, parce que je l'ai vécu. Moi, longtemps, ma solution, c'était de dire, oh, ben, OK, d'abord, je m'en vais, je change ou peu importe.
Non, c'est ça.
On va ailleurs.
Ouais. Puis un jour, j'ai fait, ça règle pas l'affaire, c'est, je déplace les trucs.
C'est pas parce que t'es pas bien, en quelque part, que t'as pas d'affaires là.
C'est très bon.
Ça se peut que tu puisses continuer.
Est-ce que le fait, t'as pas mentionné la consommation de médicaments?
Ben, c'est un corollaire.
Parce que ça, ça va.
Elle vient d'une cause.
Mais elle a un effet aussi secondaire. Parce que, tu sais, souvent, ça a des effets dépressifs, là.
Là, je sais pas, là-dessus.
Puis l'augmentation de l'anxiété, puis tout ça, parce que, tu sais, on parle de l'explosion, tu en as parlé même au début, là, de l'explosion, de l'augmentation des médicaments.
C'est partout, tout le temps. Ça arrête pas de monter. À un moment donné, la nouvelle, ça va être 100% des Québécois sont ces pilules.
Mais ça se peut-tu que, je sais pas, je suis vraiment pas médecin ou biologiste ou je sais pas s'il y a un autre terme pour ça, mais les jeunes parents d'aujourd'hui, ils sont sur souvent le Ritalin ou sur d'autres choses, des antidépresseurs ou whatever. Là, ils ont des enfants. Ça peut-tu affecter le caractère de l'enfant dès la naissance parce qu'ils viennent d'un corps qui a pris beaucoup de médicaments?
Ah, ça, je sais pas.
C'est encore pire parce que l'environnement familial aussi a mis une pression. Parce que c'est pour eux autres, ils ont normalisé ça. Ils ont comme internalisé le fait de prendre des pilules.
Je sais juste que je connais pas beaucoup de gens qui sont, mettons, très anxieux, dont les parents sont très relax dans la vie. J'ai rarement vu ça.
Ben, moi, je pense aussi que tout ça, ça porte maintenant un nom. Ça porte plusieurs noms. T'sais, si on regarde, mettons, il y a 15-20 ans, même vous autres, t'sais, quand je te parle du sentiment d'inconfort qui fait que tu as changé de place à plusieurs reprises, ça portait pas de nom, ça, à ton époque. Aujourd'hui, on peut le dire, ben oui, ce sentiment d'inconfort-là, que j'étouffe, ben ça, c'est de l'anxiété. Fait que les jeunes sont capables de le nommer aussi quand on leur pose des questions. Puis qu'on
ce qui est un plus. Ça, c'est un plus.
Ben, en fait, c'est un plus si...
Non, mais de le reconnaître, Eric. T'sais, de pouvoir mettre des mots sur des trucs.
Mais le fait qu'il y en a plus, c'est pas un plus.
Ça veut pas dire qu'il y en a plus, Eric, c'est ça que je dis. Ça veut dire que maintenant, les jeunes sont capables de l'identifier. Tu sais, si, mettons, je te dis, Eric, toi, là, t'es stressé big time. Tu vas dire, ben non.
Puis
là, après ça, je vais te dire, ouais, mais t'as-tu l'impression que quand tu vis ça, telle chose, tatata.
Mais moi, c'est sûr que j'aurais été diagnostiqué. Mais c'est dans ce dossier-là, c'est sûr et certain que du monde comme moi, peut-être même toi aussi, Marc, là.
Mais détresse psychologique.
Si on était aujourd'hui, là, nous autres, on serait des cas. C'est sûr, 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 sûr.
Sûrement.
Quand tu dis détresse psychologique et anxiété, c'est pas TDAH, là.
Non, là-dedans, il y en a des suicidaires puis il y en a des dépressifs. Là. Un sur cinq dépressifs.
Mais il reste que Julie, ce que tu dis, je comprends très bien. J'adhère à 100%, mais je t'ai quand même dressé une liste de trucs qui sont différents de 25 ans.
Je les ai tous notés.
Tu comprends?
Mais là-dedans, ça a changé, là. L'information est maintenant disponible.
Mais ça ajoute pas ça. Le fait que tu disais, toi, t'es un DDAH, ça t'ajoute pas encore plus de stress, ça?
Oui, c'est une comorbidité.
Comment t'appelles ça?
Une comorbidité. Ben oui. C'est quand t'as deux états, deux situations, deux diagnostics qui se côtoient, tu sais. OK.
Puis l'autre truc, il y a quelqu'un qui me dit c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont de la compétition à cause des cotes R. Un instant.
Ah, ça, ça a tout le temps été, par exemple.
Mais, non, mais moi, je pense que c'était pire à l'époque. Il y a eu une époque, aujourd'hui, ils veulent même plus noter, là. Tu sais, au primaire, ils mettent des lettres, puis des fois, même, rappelez-vous, ils ont même éliminé les bulletins pendant un bout de temps. Hey, nous autres, c'était compétitif rare, là.
À côté.
Puis pour l'université, c'était la même maudite affaire. On rentrait pas à l'université. On rentrait en fait moins facilement à l'université. Fait qu'il fallait être encore plus performant. Moi, je pense que ça, c'est moins pire qu'avant. La compétition, selon moi, elle est moins grande aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20-30 ans.
L'ironie, c'est-tu quoi? C'est ça que je pensais. Quand je dressais ma liste, je pensais à ça. Je me disais, c'est toutes des affaires qui, à quelque part, je trouve, se sont pas vraiment améliorées. Mais on a l'impression qu'on est dans un progressisme partout. Je trouve pas que c'est vrai. Je trouve pas que tout va mieux, là. C'est pas vrai
que tout va mieux. C'est loin d'être vrai, en fait. Il y a des affaires qui régressent, puis il y en a qui progressent. Faut arrêter de penser.
C'est
vrai qu'il y a comme une idée que parce que le temps avance, on progresse.
Non.
C'est pas vrai. L'humanité a régressé plus souvent qu'elle a progressé si vous regardez des livres d'histoire.
Le retour.